Merci Antoine Maret, tout de suite, la deuxième partie de la Grande Table. Quand il s'est agi de choisir une date pour Noël, l'Église a retenu le 25 décembre car elle correspondait déjà à la fête du retour de la lumière, juste après le solstice d'hiver. Tous ces symboles, d'ailleurs, la bûche, les chandelles, le sapin, sont lumineux. On est ici dans l'ordre du symbolique, du religieux, l'ombre incarne le mal, ce qu'on veut cacher, et la lumière, le bien, ce qu'on expose. Mais l'enjeu est bien plus vaste. Au fil de l'histoire et des progrès techniques, l'éclairage privé, puis l'éclairage public, sont devenus des révélateurs des questions sociales, politiques, culturelles et économiques. C'est l'objet du documentaire et du beau livre dont nous allons parler maintenant, « Lumière sur la ville, une histoire de l'éclairage urbain ».
La nuit n'a pas toujours été aussi fréquentée. La vie nocturne, telle que nous la connaissons, est un héritage récent. Le plaisir de déambuler jusqu'au bout de la nuit, nous le devons à l'éclairage public. La lumière permet la mobilité et la circulation des personnes accélère celle des idées. Ce n'est sans doute pas un hasard si l'éclairage public naît au siècle des Lumières. La diffusion de la connaissance fait entrer notre société dans la modernité. La lumière en est le symbole. Son évolution technique est le fruit d'inventeurs. Mais l'adoption d'une technologie dans l'espace public répond d'abord aux besoins de contrôle du territoire. Entre ordre social et désordre de l'ombre, la lumière urbaine a façonné au fil des siècles notre rapport à la nuit.
Bonjour Agnès Beauvais-Pavy.
Bonjour.
Vous avez, Agnès Beauvais-Pavy, un long parcours en production de films documentaires. Pendant 15 ans, vous avez exercé successivement les fonctions de directrice de production et de productrice. Vous avez également été distributrice de 2006 à 2013. Et ce film dont on vient d'entendre les premières secondes, la première minute qui a été diffusée sur Arte, qui a ensuite tourné dans un certain nombre de salles. On espère pouvoir le revoir en 2019. Ce film est votre tout premier film documentaire. Quelle en est l'origine? Vous l'avez aussi décliné dans un livre, dans un beau livre chez Bourrin, éditeur, coédité avec Arte Édition, qui a le même titre, hein, Lumière sur la ville, une histoire de l'éclairage urbain. Quelle en est la genèse?
J'ai fait des études de cinéma à l'origine et j'ai toujours eu, quand j'ai fait des études de cinéma, j'avais envie de faire des films. Puis la vie a fait que je suis partie, que j'ai fait de la production. Et c'est l'un de mes amis qui m'a demandé un film, puisque quand j'étais distributrice, j'avais accès à une énorme bibliothèque de films, qui m'a demandé de savoir s'il existait un film sur la lumière. Et en fait, il n'en existait pas. Donc j'ai commencé à m'intéresser comme ça au sujet. Et il se trouve que je pratique pas mal la nuit ou la balade nocturne. Donc ça m'intéressait d'autant plus. Et puis ensuite, j'ai rencontré à l'occasion d'une réunion des concepteurs lumière Thierry Paco. J'en ai parlé, il m'a dit « Ah, il faut lire Wolfgang Schivelbusch, La nuit des enchantés ».
Et donc, vous déflorez un petit peu le deuxième invité, Thierry Paco. C'est pas tout à fait un hasard si on vous a invité aujourd'hui. Je le rappelle, vous êtes philosophe et urbaniste. Vous avez notamment récemment consacré à un livre qui s'appelle, on va pas citer tous vos ouvrages, mais il y a le Dicoru qui a été publié récemment au CNRS Édition. Il me semble qu'il y a une entrée dans ce Dicoru, Réverbère notamment.
Oui, et puis Nuit urbaine.
Et Nuit urbaine, évidemment. Et donc, c'est vous qui avez soufflé en quelque sorte la première petite flamme, la première inspiration pour ce documentaire que vous avez vu également. C'est quoi ce livre de Wolfgang Schivelbusch?
C'est un livre de ce qu'on appelle l'histoire des mentalités, l'histoire des sensibilités. Il essaye d'expliquer comment la nuit va s'éclairer et qu'est-ce que ça transforme dans la vie sociale et aussi dans la vie intime et personnelle. Parce que le départ, j'allais dire, de la promenade nocturne, puisqu'Agnès évoque qu'elle apprécie bien de se promener, eh bien ça va avec le 18e siècle. Avant même l'éclairage public généralisé, bien sûr, il y a d'abord évidemment les romantiques allemands. C'est eux qui découvrent le plaisir de la promenade au clair de lune. Hein, ce qui sera moqué ensuite d'une manière terrible par Marinetti, qui sera totalement nunuche. Hein.
Mais ce qu'on découvre dans votre documentaire, Agnès Beauvais-Pavis, c'est que cette histoire, elle remonte bien avant les romantiques allemands et le tournant du 18e et du 19e siècle. C'est une histoire de plus de 4 siècles que vous nous dépeignez, une histoire qui est aussi une histoire de progrès technique.
Oui, tout à fait. Mais c'est aussi l'histoire, je dirais, qui est liée simplement à la ville, hein, aux faits urbains. C'est-à-dire que déjà au Moyen-Âge, effectivement, les villes ne sont pas éclairées, les villes sont fermées entre des murs, on se protège à la fois de tous les dangers, et puis on peut penser aussi qu'on se protège pas mal de la nuit, hein, c'est-à-dire que la nuit est terrifiante, hein, le mal est dans la nuit, etc. Et à partir du moment où les mécanismes d'horloge vont se transmettre, à partir du moment où on va commencer la journée et la terminer éventuellement dans la nuit, alors que pendant des siècles et des siècles, on a vécu avec le rythme du soleil, donc en se couchant tôt ou en se retrouvant à la veillée autour du foyer.
Alors l'éclairage public né au siècle des Lumières, ça peut paraître idiot de le dire comme ça, Thierry Pacaud, et pourtant c'est pas si bête que ça, ça a son importance. Tirer le monde de la nuit, c'est aussi le tirer de ces superstitions, de ces créatures de l'obscurité, du mal, comme ça vient d'être énoncé.
Oui, alors Diderot, évidemment on pense à lui quand on pense à la philosophie des Lumières, avait ce mot d'ordre, soyons ou soyez ténébreux. Donc il y a bien cette idée que le mot nuit en latin signifie aussi nocturne, signifie aussi ténèbres, signifie aussi noir. Alors, je ne ferai pas l'analogie aussi facilement, parce que les Lumières de l'esprit ne sont pas l'éclairage urbain. Ça va un peu ensemble, mais Agnès a tout à fait raison. Il y a une préhistoire de l'éclairage urbain qui commence, on peut dire, vers le 12e, 13e siècle, mais il y a une multitude de législations royales qui essayent d'imposer aux propriétaires d'éclairer devant chez eux, et ça marche pas du tout, ça marche absolument pas, tout le monde est rétif à ça, et puis je crois que Agnès a très bien dit, c'est la peur. On a peur la nuit, parce que la nuit, on ne voit rien, et puis on croit que c'est peuplé de djinns, de personnages monstrueux, de personnages un peu légendaires, comme ça, qui nous font peur, et alors il faut qu'il y ait la victoire de la raison. Et là, on revient à la philosophie des Lumières. Il faut qu'il y ait la victoire de la raison pour dire « je ne risque rien » et la preuve en est, c'est que je vais commencer à éclairer mon chemin pour aller de chez moi ailleurs.
Et la nuit continue d'intéresser les philosophes puisque Michael Fossel, qui est un philosophe de notre temps, a consacré un ouvrage à la question très récemment.
Je crois qu'on peut parler de nuit parce que, évidemment, il y a une manière tout à fait classique de définir la nuit de manière privative, en quelque sorte. Hein. C'est ce moment de l'absence de lumière qui revient quotidiennement et à heures changeantes selon les saisons. Mais je dirais que si on définit la nuit d'un point de vue simplement physique ou géophysique, la philosophie n'a rien à en dire. Et ce que j'ai essayé de montrer, c'est que l'on peut penser la nuit philosophiquement en l'abordant comme, d'une certaine manière, un fait de la liberté humaine. Ça veut dire il fait nuit quand nous décidons qu'il le fait. Et on peut dire qu'effectivement, il est possible à l'homme, sous certaines conditions, à l'être humain, je veux dire, de créer les conditions d'une certaine intimité qui est nocturne. Donc, simplement en baissant la lumière, en tamisant un petit peu l'ambiance. Mais on constate d'ailleurs aussi que dans la nature, dans l'expérience cosmique que nous pouvons avoir des choses, eh bien, il y a des phénomènes qui manifestent très bien le fait qu'il peut faire minuit à midi, à savoir, pour commencer, l'éclipse. Et je crois que l'un des pouvoirs de l'homme, c'est de créer des éclipses, c'est-à-dire précisément de, comme on le dit d'ailleurs justement, ça renvoie à cette idée de l'absence de témoins, de s'éclipser et de ne pas, non pas d'ailleurs de fuir le regard de l'autre, de fuir une certaine modalité du regard des autres qui est le jugement.
Fuir le jugement dans la nuit, c'était le philosophe Michael Fossel en 2017 au micro d'Adèle Vendrette dans les chemins de la philosophie sur France Culture. Agnès Beauvais-Pavis, c'est une façon de parler d'un élément qui est absolument central dans votre documentaire. On va continuer à émailler hein, évidemment la discussion de ces progrès techniques qui ont permis à l'éclairage public de progresser justement. Mais il y a bien derrière tout ça cette question philosophique, cette question politique qui est celle du contrôle, de la liberté, de la mixité sociale.
Oui, absolument, et ça on le voit, mais même très tôt. Pour juste faire un petit bond en arrière, au Moyen-Âge, effectivement, les villes sont fermées, et les premières ordonnances hein, qu'on constate hein, dans l'histoire, qui lient à la fois la surveillance, enfin, qui sont liées à un événement absolument extraordinaire. Donc la première, alors ça, j'en parle pas vraiment dans le film parce que j'ai pas le temps, mais plus dans le livre. La première ordonnance que l'on va trouver, c'est une ordonnance qui demande aux habitants parisiens de mettre une lanterne à leur fenêtre à côté d'un broc d'eau, parce qu'on craint absolument les incendies, à l'occasion de l'arrivée des ambassadeurs du roi d'Angleterre, qui en pleine guerre de 100 ans vient demander la main de la fille du roi. Alors, à la fois, c'est ces lumières qui s'accrochent aux fenêtres signifient la fête possible. Et puis, là, il s'agit quand même de recevoir les ennemis d'hier, donc elle commence à signifier la vigilance.
Et vous montrez comment pendant la Révolution française aussi, on reprend ce rite de demander aux citoyens, là en l'occurrence, de mettre des lumières à leurs fenêtres en signe de soutien politique. Donc on est vraiment dans cette question, hein, Thierry Pacaud, dans cette question qui est très politique, très sociale. Peut-être que ce qu'on n'a pas dit encore assez, c'est aussi cette notion de sécurité. C'est-à-dire que la nuit est associée à l'insécurité et c'est un concours de la police. C'est ici dans votre documentaire, Agnès Beauvais-Pavie, c'est aussi un concours de la police en 1765 qui donnera naissance à l'invention du réverbère.
Oui, mais même alors donc l'association police-sécurité va ensemble et les porteurs de flambeaux, puisqu'on les appelait comme ça, sous Louis XIV, on en réservait un ou deux lorsqu'on allait dîner chez un grand de ce monde ou au salon d'une princesse, et puis on rentrait à pied escorté. Mais c'était évidemment que les gens de l'élite qui pouvaient se payer justement ces porteurs de flambeaux. Le tout venant n'avait pas ça, le va-nu-pied n'avait pas ça. Donc il a fallu effectivement des progrès techniques qui ont été le fait de tout un débat. Alors on trouve des noms évidemment, Argan, Quinquet, bon, Lavoisier, etc. Plein de savants se sont intéressés à perfectionner, avant d'en arriver au réverbère, de perfectionner la mèche, la qualité de la mèche, sa texture, l'importance du verre, évidemment, et puis aussi tout le système de distillation de l'huile, puisque c'était des lampes à huile à un moment donné. Et puis ensuite, il y a eu le réflecteur, donc des miroirs qui permettaient de donner plus de lumière à un seul foyer. Et c'est le sens du mot réverbère qui apparaît en 1771 dans notre langue et dans la réalité des rues.
Agnès Beauvais-Pavie, vous racontez assez longuement l'histoire de ce bourgeois de Châteaublanc, c'est son nom, qui invente le réverbère.
Oui, disons que lorsqu'il reçoit le prix justement pour ce concours, il a déjà présenté son réverbère 20 ans plus tôt, donc c'est assez étonnant. Et on voit un petit peu, déjà au XVIIIe siècle, un peu comment se font les affaires. C'est-à-dire que 20 ans plus tôt, il le présente, sa présentation donne lieu à un poème, sans doute de l'un de ses amis, mais il n'a pas ses entrées. 20 ans plus tard, il reçoit le prix, il n'est pas le seul, hein, puisque le prix est partagé entre trois lauréats, dont le jeune Lavoisier. Mais là, pour le coup, il a pris la leçon, et il va s'associer avec un financier qui s'appelle Tourtille Sangrain, et pour justement créer ou faire une proposition à la ville de Paris pour éclairer la ville et pour la débarrasser d'un problème qui est quand même très important, c'est que jusqu'à l'arrivée donc du réverbère, ce sont les habitants qui allument eux-mêmes les lanternes royales.
Et personne n'a vraiment envie d'accomplir cette fonction.
Oui, absolument. C'est-à-dire que ça donne lieu vraiment à des... à de véritables discordes, ça donne lieu à des procès, c'est quelque chose que l'on considère comme vil. Donc c'est laissé toujours aux mêmes, on va dire, aux mêmes personnes, les petits boutiquiers qui tiennent boutique sur la rue. En fait.
Alors on voit à quel point la question sociale est présente dans cette question de l'éclairage urbain. Vous le disiez, Thierry Pacaud, ce sont les riches, d'abord les plus riches, qui peuvent se permettre de vivre la nuit. Les fêtes populaires ont plutôt lieu le jour. Les fêtes nocturnes, notamment du roi Louis XIV, sont célèbres. Et sont célèbres notamment parce qu'il brûlait un nombre considérable de chandelles et de moyens de s'éclairer. Faisons un bond un petit peu dans le temps, si vous le voulez bien, pour arriver au 19e siècle, le siècle des révolutions industrielles, et pour voir comment... Justement, le contrôle de l'éclairage urbain est aussi une question du contrôle de l'espace public, puisque le baron Haussmann, dont on connaît évidemment le travail sur les grandes avenues de Paris pour limiter la possibilité de révolte populaire après un siècle de révolution, récupère justement le contrôle de l'éclairage public, ce qui montre bien la fonction éminemment sécuritaire, j'allais dire, de cet éclairage public.
Alors cet éclairage public, en plus, là, et le film le montre très bien, évolue, ce n'est plus de l'huile, c'est du gaz. Et là, Haussmann, en 1855 précisément, oblige les 6 compagnies privées qui produisent et diffusent et distribuent le gaz de se réunir en une seule compagnie afin d'homogénéiser les services à l'échelle de la capitale. Alors, évidemment, Là, le Second Empire, qui est une période fastueuse pour, en particulier, les banquiers, les riches aristocrates, etc., c'est aussi celui de la découverte de la nuit urbaine, c'est-à-dire avec les plaisirs, l'opéra, les théâtres, les cabarets, et puis, évidemment, l'élément central de ça, c'est la gare. Et la gare, évidemment, a des horaires tels que il nous faut parfois démarrer au petit matin ou arriver tard dans la nuit. Donc il faut qu'on puisse s'y retrouver et y voir clair.
Agnès Beauvais-Pavie, après le baron Haussmann, il y a évidemment tout ce mouvement d'électrification de Paris à la fin du 19e siècle, le courant du 19e, du 20e. Et puisqu'on parlait d'enjeux économiques, vous rappelez dans votre film et dans votre livre que les premières usines à électricité, elles sont dans les sous-sols des grands magasins.
Alors elles sont dans les sous-sols des grands magasins, tout comme le gaz est arrivé dans les passages qui étaient les hauts lieux, je dirais, du commerce et qui étaient ouverts tard dans la nuit. En fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'à chaque fois qu'une nouvelle étape est franchie, qu'une nouvelle technologie arrive dans la ville, elle démarre toujours du centre et des commerçants. Donc, sauf que là, on franchit quand même une échelle, c'est-à-dire que là, l'électricité s'installe dans les sous-sols des grands magasins, dans les sous-sols des grandes banques et dans les sous-sols des grands hôtels. Donc, on change de rapport. Les passages étaient encore un regroupement de petites boutiques. Le grand magasin, c'est, je dirais, l'énorme boutique qui a tous les départements.
Et juste pour être complet, ce développement de la lumière électrique, cette invention majeure du début du XXe siècle, est aussi une invention de la communication, c'est un élément qu'il faut rappeler, et concomitante d'une autre invention très très importante, qui est celle de l'automobile. Et l'automobile, qui est donc ce symbole de la vitesse, je pense par exemple au livre de Tristan Garcia sur la vie intense, qui revenait justement sur l'invention de l'électricité, l'automobile, la vitesse. La lumière participe de cette révolution du tournant du XXe siècle.
Oui, absolument. Et c'est très sensible, en fait, quand on regarde les écrits de cette période-là, où vraiment, les gens qui vivaient à ce moment-là avaient vraiment ce sentiment de changer totalement d'époque, d'être à l'aube de quelque chose d'incroyable, et qui était vraiment porté à la fois par la lumière, enfin, la manifestation la plus sensible de l'électricité, c'était la lumière. Donc, c'était ce qui fascinait le plus, qui était vraiment offert aux yeux de tous. Et l'automobile, à la fois la vitesse et, je dirais, le décorum dans la nuit, enfin la puissance lumineuse dans la nuit.
La grande table, Raphaël Bourgois.
They're talking about you, boy.
Night Call, l'appel de la nuit de Kavinsky, tiré de l'excellente bande originale du film Drive. On sillonne les nuits de Los Angeles, là on est plus à Paris avec vous Agnès Beauvais-Pavie et Thierry Paco à l'occasion de ce documentaire et de ce livre « Lumière sur la ville, une histoire de l'éclairage urbain ». Une histoire de l'éclairage urbain qu'on a déjà commencé à bien comprendre, à bien entamer avec vous deux. J'aimerais maintenant qu'on parle peut-être de la dimension esthétique, puisqu'on a beaucoup parlé de la dimension politique et sociale, puisque votre film, Agnès Beauvais-Pavie, c'est aussi une tentative de filmer la lumière.
Oui, et d'ailleurs, c'était vraiment une question qu'on s'est posée, et comment faire, sachant que pour un chef opérateur, c'est très 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 difficile.
De filmer la nuit.
De filmer la nuit, absolument.
Il vaut mieux créer la nuit avec la lumière le jour, plutôt que de filmer la nuit.
Alors ça, ça a été souvent fait en cinéma, avec La Nuit Américaine, et lorsque j'ai cherché, bon, puisque je voulais m'appuyer aussi sur des archives, bah, je me suis aperçue qu'il fallait, je pouvais pas remonter avant les films de 1929, en fait, où il y a une sensibilité, sans doute, de la pellicule, qui permet de recréer la nuit, en tout cas, avec des éclairages. Mais c'était assez drôle quand j'ai fait mes recherches, justement, pour essayer de trouver des archives que je puisse utiliser sur la nuit. J'ai eu quand même pas mal de surprises, y compris dans les films dont j'avais souvenir, où je pensais qu'effectivement, j'allais trouver exactement une image de nuit avec juste une chandelle comme ça qui passe. Et puis je regardais de nouveau le film et je m'apercevais que non, il y avait énormément de lumière de chaque côté et que donc le plan, je ne pourrais absolument pas l'utiliser. Donc la nuit est un énorme pourvoyeur d'imaginaire. Et c'est ce qu'on va retrouver à la fois dans ce qui habite ou ce qui nourrit les romantiques, les noctambules, et à la fois ce qu'on retrouve à travers le cinéma. Et c'est pour ça aussi que j'ai voulu utiliser autant d'archives et utiliser du film.
Thierry Paco, la nuit, c'est le lieu par excellence de la création.
Alors c'est le lieu de la création parce que c'est le lieu de la transgression aussi, j'imagine. Hein. Donc il y a un lien entre la créativité et le fait de rompre avec finalement le mode de vie bourgeois. Le mode de vie bourgeois, c'est pépère, c'est régulier, c'est routinier. Mais les poètes, eux qui sont des voyants, comme dit Rimbaud, ben, on vit à contre-temps de la bourgeoisie. Et là, en étant à contre-temps, on peut penser le monde et le décrire autrement. C'est pareil pour les révolutionnaires. Hein. Jacques Rancière a écrit un très très beau livre il y a longtemps, La nuit des prolétaires, où il montre justement que les discussions à bâtons rompus dans des cafés prolétariens permettaient de redéfinir une nouvelle révolution à venir. Alors, ce qui est intéressant dans ce qu'elle vient de dire Agnès, c'est que c'est aussi le moment du rêve. Alors, après seulement, on a analysé le sommeil avec ses différentes phases, on a repéré le sommeil paradoxal, etc. Mais n'empêche que dès la fin du XVIIIe siècle, les romantiques allemands notent leurs rêves. Et l'expression « interprétation des rêves » date de ce moment-là, c'est-à-dire un siècle avant que Freud ne le commence à le théoriser. Donc, il y a une puissance du nocturne pour pouvoir créer, fabriquer, concevoir. Alors maintenant, il faudrait pas non plus généraliser. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'artistes qui travaillent le jour, évidemment.
Ils sont comme tout le monde, les artistes. Ils travaillent aussi le jour. Mais il y en a un photographe, justement, c'est intéressant. Écrire avec la lumière, c'est le principe de la photographie. Il y a un photographe qui est présent très rapidement, de manière presque fugace, dans votre documentaire, mais dont j'aimerais vous faire écouter une archive, c'est Brassailles.
Vous savez, j'ai détesté la photo. Je me suis jamais occupé de la photo, je méprisais, tout simplement. Mais ayant passé des nuits à marcher à Paris, de voir tel quartier, telle rue dans le brouillard, je me suis demandé, mais avec quoi je pourrais rendre ça? Et c'est comme ça qu'une femme, un jour, m'a prêté un appareil. Et c'est avec cet appareil que je commençais à photographier la nuit. Je ne faisais pas du tout des photos le jour. C'est beaucoup plus tard, quelques mois après, j'étais passionné de la nuit. Et alors, j'ai pris au sérieux, j'ai acheté des livres, je m'équipais et je commençais à faire. Alors, j'ai fait depuis quelques mois, je suis allé très loin, à Belleville, allé au bord du canal. Et alors, quelquefois, les policiers de loin ont aperçu un homme accroupi, immobile. Ils ont pensé qu'il était en train de commettre un crime, n'est-ce pas? Alors, ils ont accouru. Ils ont dit, mais qu'est-ce que vous foutez là? Alors, j'ai dit, j'ai fait une photo à cette heure-ci, mais quelle idée, tout ça, n'est-ce pas? Alors, j'ai porté toujours sur moi des photos, de nuit pour leur montrer. Et immédiatement, il était désarmé parce que chaque agent est un photographe. Ils ont tout de suite demandé, mais combien de temps de pause? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, pour les temps de pause, j'avais un système, n'est-ce pas? J'ai fumé des gauloises pour... Alors, c'était une... La durée d'une gauloise.
Pour mesurer le temps
de pause. Ou alors, quelquefois, il a fait des boyards. Ça durait deux fois plus, n'est-ce pas?
La technologie a un petit peu évolué depuis. Plus besoin de fumer des gauloises pour mesurer le temps de pause. Enfin, je vous le souhaite pas. En tout cas, on entend la Brassaille au micro de Roger Grenier. C'est en 1964 et tout y est. Hein. On retrouve la police, on retrouve la question technique, la déambulation nocturne.
Et la fascination, je pense aussi, pour la nuit, parce que ça c'est quelque chose que j'ai remarqué justement entre les personnes qui s'intéressent à la nuit, qu'il s'agisse de chercheurs, de philosophes, d'historiens. Je pense qu'on est très vite fasciné et on est très vite passionné en fait par ce qui s'y passe. Je trouve ça excellent le coup des cigarettes de Brassailles, c'est formidable. Et effectivement, oui, on retrouve la police et on retrouve toujours l'idée que on est dans la transgression. Donc même puisque je crois que ces photos sortent en 1933, en 1933, il y a déjà quelque chose. Enfin, c'est déjà, ça paraît étrange qu'on puisse passer ces nuits dehors et photographier. Bon, alors pour la police, et en tout cas la police doit s'interroger sur la présence de cette personne-là.
Thierry Paco, la question qu'on a peut-être peu abordée, et c'est peut-être significatif, c'est la question de l'urbanisme. Et pourtant, vous êtes là aussi pour en parler avec nous. C'est que cette question de l'éclairage public, elle n'a pas toujours été, bizarrement, au cœur de la réflexion des urbanistes.
Non, même, on peut le dire, pas du tout. Enfin, dans les écrits, du moins, ou dans les plans ou les documents déposés officiellement, ce qui est attribué à la lumière est marginal. Enfin, c'est même totalement exceptionnel. Même chez les architectes, il n'y en a pas beaucoup qui ont dessiné, par exemple, un réflecteur, une lanterne, ou pas du tout. Bon, ils prenaient ce qu'il y avait dans le commerce, d'une certaine manière. Donc, je crois que... Mais là, je voudrais juste revenir à Brassailles, parce que ça va aller avec l'urbanisme. C'est qu'en fait, ces photographies nous révèlent une autre ville dans la ville. C'est un point excessivement important parce que tout d'un coup, on découvre que Paris a un autre Paris, que le Paris nocturne n'est pas le Paris diurne. Et puis, le Paris nocturne a ses quartiers. Hein, le documentaire, la citation que vous donniez était très juste. C'est-à-dire que c'est Montparnasse, c'est Montmartre. Et comme par hasard, c'est les deux hauts lieux de la nuit urbaine à cette époque-là qui étaient reliés entre elles, ces deux espaces-là, par précisément le métropolitain, la ligne nord-sud. Et Nord-Sud, c'est le titre de la revue que lance Pierre Verdi. Donc il y a bien une espèce de concordance entre les hauts lieux de la nuit et puis cette espèce de découverte de la poésie. Et donc la nuit est poétique pour Brassailles. Elle n'est pas simplement transgressive, elle n'est pas simplement coquine, elle n'est pas simplement mafieuse. Enfin, tout ça existe, mais elle est avant tout le lieu d'une poésie, c'est-à-dire d'une féerie. Alors il y a un élément d'éclairage important, c'est le néon. Le néon, aujourd'hui, il n'y en a plus parce que pour des raisons... énergivore, c'est interdit, et de pollution, c'est interdit à juste titre, on y met des LED, mais à cette époque-là, il y a une forme du néon, donc c'est un Français qui s'appelle Georges Claude qui, en 1910, emprisonne ce gaz qu'on appelle le néon dans un tube pour en faire un éclairage.
Et arrive la lumière de couleur.
Voilà, et après, alors là c'est quelque chose, et qui clignote, donc qui est mise en scène, et là, tout d'un coup, la ville est animée, et la nuit est animée, donc ce n'est plus une nuit pesante, lourde, qui s'abat sur nous comme ça, hein. Mais c'est au contraire quelque chose de joyeux, quelque chose de distractif, quelque chose qui ne peut nourrir finalement que notre imaginaire, en nous rassurant.
Agnès Beauvais-Pavé, sur cette impensée qu'est la lumière dans l'ordre de l'urbanisme.
Moi, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on n'est pas toujours dans le même impensé aujourd'hui? Par exemple, en discutant justement avec le directeur de l'éclairage de la ville de Lyon, il est, lui, très très remonté encore aujourd'hui sur le fait que certains projets urbains ne prennent pas en compte la lumière, ne prennent pas en compte la dimension de la nuit. Dans la réflexion qu'on pourrait avoir aussi, est-ce que ça n'est pas, enfin, au 19e, c'est la lumière carrément qui fait ville, hein, qui fait la modernité, qui fait la ville, qui attire les gens, hein, vers la ville. Au 20e siècle, elle est très prégnante. Effectivement, on sort, on va regarder l'éclairage. Ces écritures nocturnes fascinent énormément. Paul Morand, mais plein d'autres aussi. Aujourd'hui, on se dit que les villes s'étendent, elles sont toutes éclairées et Moi, la question que je me posais, c'est si on devait justement, par exemple, éteindre les villes et ne laisser allumer que les endroits qui sont parcourus et qui sont fréquentés, est-ce qu'on ne pourrait pas redéfinir la ville justement par rapport à sa vie nocturne ? Est-ce que ce qui fait ville ou ce qui ne fait pas ville, c'est-à-dire ces extensions de la ville en dehors de la ville, ce qu'on appelle les zones périurbaines, etc., est-ce qu'on ne s'apercevrait pas justement que c'est l'activité nocturne qui, de certaine façon, pourrait définir la ville ?
Alors là, c'est difficile, il faut désoccidentaliser notre esprit, parce que là, on a parlé quand même que de l'Occident. Et donc, les marchands des quatre saisons, on va les appeler comme ça, c'est un peu bête, mais qui vendent dehors des fruits, des légumes, dans les villes indiennes, dans les villes d'Amérique, d'Afrique, etc., finalement, c'est eux qui éclairent avec un petit brasero, avec une petite lampe but à gaz, parce que la ville n'est toujours pas éclairé parce qu'il n'y a pas de production d'électricité assez suffisante. Il y a des coupures d'électricité dans la nuit, dans la journée, etc. Donc dans notre cas à nous, c'est très étonnant que le concepteur lumière, c'est une appellation qui a été inventée par un éclairagiste entre guillemets, il serait furieux que je l'appelle comme ça, qui est Roger Narboni, et qui le premier va parler aussi de schéma d'aménagement nocturne, de paysage lumineux, etc. Donc cette espèce de prise en considération de la lumière est quelque chose qui a 30 ans au maximum et n'est pas systématique.
Et justement, puisque vous citez Roger Narboni, c'est la prise en compte de la lumière, c'est aussi la prise en compte des ombres. Et puisque vous nous invitez à désoccidentaliser nos esprits, Thierry Pacaud, j'ai pu lire dans la presse qu'il y avait un projet assez fou en Chine, je ne sais pas du tout si c'est possible techniquement, mais qui serait de créer un satellite artificiel, une lune qui reflèterait la lumière du soleil, qui éclairerait la ville de Chengdu toute la nuit de façon permanente. Et on retrouve là une espèce de fantasme qui est aussi présent dans votre documentaire, Agnès Beauvais-Pavy, qui est d'oblitérer complètement la nuit, qu'elle soit éclairée totalement. C'était plutôt au tournant du 19e, 20e. Aujourd'hui, on pense les ombres, mais il y a ce fantasme qui existe.
Oui, c'était absolument au milieu du 19e siècle. Où on a réellement rêvé d'abolir la nuit, c'est-à-dire depuis la fin du 18e jusqu'à la moitié du 19e. Et peut-être que... Alors, je ne sais pas pour les Chinois, c'est assez étonnant, c'est assez drôle, c'est aussi assez perturbant, parce que est-ce qu'ils se rendent réellement compte de ce que ça pourrait produire, une sorte de lumière qui éclairait toute une région en permanence et de façon permanente, de jour et nuit? Personnellement, je pense que
c'est un cauchemar écologique aussi, hein, puisqu'on n'a pas parlé de cette importance de l'écologie aujourd'hui, la pollution lumineuse.
Absolument, puis c'est un cauchemar existentiel. Je veux dire, l'être humain est marqué par sa chronobiologie. On ne peut pas complètement abolir. Hein, les 24 heures ne sont pas égales et ne sont pas attribuées aux mêmes attributions. Donc non, moi je crois que cette espèce de croyance en un jour perpétuel est excessivement dangereux. Je suis au contraire pour la grande diversité des temporalités, parce que c'est plaisant de plonger dans la nuit urbaine et puis de plonger aussi dans le jour. Et donc la chronobiologie des plantes et des animaux nous laisse entendre aussi qu'il y a des zones d'ombre permanente qu'il faut contenir, qu'il faut cultiver. Et moi, je vois très très bien dans les projets d'urbanisme aujourd'hui, il y a toujours l'idée d'une coulée verte, d'une coulée bleue, mais il n'y a jamais la noire. Et donc, je demande à chaque fois qu'on la rajoute, c'est-à-dire qu'on laisse à un moment donné la nuit dominer, régner totalement.
Surtout Agnès Beauvais-Pavy, ce sera le mot de la fin, que vous préparez actuellement un film en réalité virtuelle, en tout cas c'est ce que j'ai pu lire, qui revient sur ce rapport intime qu'on a à la lumière.
Oui, c'était une question que j'avais eue en faisant le film. Je voulais vraiment rendre compte de ce qu'étaient ces éclairages et comment et qu'est-ce qui pouvait réellement éclairer. Et puis j'avais même pensé pourquoi pas faire, puisque j'ai rencontré à l'occasion de ce film des collectionneurs. Donc j'ai vu des éclairages, que certains sont dans le film, ont été filmés, ce qu'ils éclairent réellement. Et en fait, en travaillant, enfin, j'avais cette envie de faire une exposition. Puis on m'avait dit, oh non, mais c'est absolument impossible de mettre du gaz et du public en présence. Et mon producteur avait dit, bon, Agnès, il y a la réalité virtuelle, on peut peut-être essayer de faire quelque chose.
Merci beaucoup Agnès Beauvais-Pavi. Lumière sur la ville, une histoire de l'éclairage urbain. C'est un livre chez François Bourin, éditeur, et Arte Édition. C'est aussi un documentaire qu'on essaye pouvoir revoir. C'était sur Arte. Merci à vous Thierry Paco, votre Dico Rue. C'était chez CNRS Édition. Merci aussi à toute l'équipe de la Grande Table, Oriane Delacroix, Henri Leblanc, Maya Neshkovitch, Jean-Christophe Brianchon, Chouchane Djergaillan, Laura Dutèche-Pérez, Jeanne Copé et Jordan Joseph. Et oui, en période de Noël, les équipes s'agrandissent. Merci à la réalisatrice Milena Ellig et à la prise de son. C'était Alex Dang et Nicolas Delmas. Dans quelques instants, les pieds sur terre.